Radio Immo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
Pour ce zoom de l'info de Radio Immo, nous sommes avec Charles Marinakis, le président de Century 21, qui nous a reçus pour sa conférence de presse biannuelle.
C'est ça,
il y en a une en janvier, il y en a une en juin. Et une en juin pour faire le point sur l'état du marché immobilier au premier semestre 2026. Alors quels sont les chiffres importants à retenir, Charles Marinakis, pour ce premier semestre et les informations importantes, je pense forcément au primo-accédant.
Oui, alors il y a une tendance générale qui est un semestre un peu cassé en deux, si vous voulez, avec un premier trimestre qui a bénéficié de la dynamique de 2025. Et puis, c'est vrai, quelque chose qui s'est ralenti dès le deuxième trimestre 2025, parce que contexte géopolitique, parce que légère augmentation des taux, parce que des prix qui ne sont pas forcément toujours réajustés. Voilà, donc un ensemble de paramètres qui n'ont pas été favorables à ce marché des transactions, à tel point que il est en légère baisse aujourd'hui, aux alentours de moins 1% en volume, avec des prix qui sont stables, qui sont aussi légèrement à la baisse. Voilà, donc c'est un marché qui est poussif, là. On fait une situation, une photographie à mi-année, à mi-parcours, alors qu'on était plein d'enthousiasme en janvier 2026, en se disant, ben voilà, enfin, 2025 nous a permis de retrouver de la stabilité, tant au niveau des prix, des taux, et donc mécaniquement par les volumes. Ben voilà, on a un peu perdu cette stabilité, et pour cause, on ne savait pas que la géopolitique prendrait autant d'importance dans ce premier semestre.
Alors justement, par rapport à la géopolitique que vous évoquez, est-ce que vous estimez quand même que le marché immobilier français est désormais davantage guidé par ses fondamentaux plutôt que par l'actualité internationale ?
Moi, j'en suis convaincu. Tout à fait, je partage cette analyse-là. Sauf que le marché international a des conséquences financières et que c'est au travers de ces conséquences financières, et notamment le pouvoir d'achat des Français et surtout l'inflation, que ça a des répercussions macroéconomiques sur le marché des transactions de l'ancien, parce que qui dit conditions, notamment pénurie d'énergie ou inflation ou pouvoir d'achat général des Français en baisse, mécaniquement induit hausse des taux d'intérêt, en tout cas pour l'inflation, et qui dit hausse des taux d'intérêt dit désolvabiliser une partie des Français pour leur capacité d'achat immobilier. Voilà. Donc c'est en cela que la géopolitique a de l'influence. Elle n'en a pas directement. Je suis pas certain qu'on renonce à acheter un appartement quand on est français au fin fond du Jura parce que il y a un conflit irano-américain. Voilà.
Alors les taux de crédit justement, est-ce que le rebond est durable ? Vous évoquez un besoin de stabilité, vous avez dit ça lors de la conférence de presse.
Oui, moi j'aurais rêvé un prolongement de 2025 avec des choses que je considérais comme étant rationnelles. Des taux qui n'étaient pas l'utopie des années 2019 à 1,2, mais qui étaient stabilisés autour de 3%. Cette baisse consécutive des taux qu'on avait eu en 18 mois pour arriver à cette stabilité. Des prix qui avaient pris note que le marché avait été tendu en 2023-2024, donc qui malgré tout avaient baissé. Voilà, qui augmentent un peu région par région, qui baissent. Voilà, bon, là vous savez que c'est très très régionalisé. Oui. Mais globalement, avec 952 000 transactions, il y avait une espèce de situation d'équilibre là qui s'était reconstitué avec les trois paramètres, la volumétrie, les taux et les prix. Voilà. Et on a malheureusement perdu ça au deuxième trimestre. Et c'est ce qui, moi, me désole, c'est que ce marché, il n'a pas besoin de s'emballer et d'avoir une courbe qui soit oscillatoire et de passer du jour au lendemain d'1 200 000 ventes à 778 000, puis 950, puis 800. Voilà. On a besoin d'avoir un marché. Même d'ailleurs pour les Français, pour qu'ils aient une vraie visibilité, pour dire, ben voilà, sur du moyen ou long terme, je sais à peu près sur quoi je peux compter. Et comment je peux me projeter dans un projet immobilier.
Pour revenir sur le retour des primo-accédants, des jeunes ménages qui semblent revenir progressivement aujourd'hui sur le marché, grâce notamment à l'amélioration de leur capacité d'emprunt. Ce mouvement, d'après vous, Charles Marinakis, est-ce qu'il est suffisamment solide pour relancer durablement les transactions, ou est-ce qu'il reste très dépendant des conditions de financement ?
Ah bah, de toute façon, tout le marché reste dépendant des conditions de financement. Malheureusement, c'est la clé d'accès au marché, c'est la levée d'emprunt, si vous voulez. Alors c'est encore plus marqué, vous avez raison, chez les primo-accédants, parce qu'ils bénéficient d'un dispositif particulier qui est le prêt à taux zéro, sans lequel leur capacité d'emprunt serait réduite. Voilà. Et vous savez, cette équation-là, elle est bien connue, parce qu'à partir du moment où on maintient les restrictions du Haut Conseil à la stabilité financière qui font que vous ne pouvez pas emprunter plus de 35% de vos revenus, ben vous voyez bien que le levier, par définition, c'est le pouvoir d'achat immobilier, ça veut dire c'est le taux, quoi.
Par contre, le marché n'est pas favorable au secondo accédant.
Alors il ne l'est plus, vous avez vu, cette courbe s'est croisée, hein, parce qu'on distribue plus de crédits aujourd'hui. Plus de 44% des crédits sont distribués au primo accédant contre 38% seulement au secondo accédant. Donc la courbe s'est inversée, parce qu'effectivement, les secondo accédants, pour certains d'entre eux en tout cas, ceux qui ont acheté en 2018-2019 à des taux très bas, ben ils sont un peu empêchés, parce que s'ils devaient céder leurs actifs et leurs biens aujourd'hui, ils ne retrouveraient pas des conditions financières aussi favorables. Ils pourraient même paradoxalement se retrouver avec une charge d'emprunt et des mensualités supérieures à ce qu'ils ont aujourd'hui pour un bien sensiblement égal ou très peu supérieur pour que le jeu en vaille la chandelle. Donc effectivement, ils sont un peu empêchés et contraints, nos amis. Il va falloir qu'ils soient patients. Ouais.
Vous évoquez régulièrement un marché de la transaction qui retrouve de la vigueur, alors que le marché locatif et le marché du logement neuf restent quand même en grande difficulté. Est-ce que cette situation n'est pas en train de créer une véritable fracture du logement en France ? Quelle décision vous attendez de vous, par exemple, des pouvoirs publics ?
Le marché locatif, en fait, si vous voulez, il est pris en tenaille entre l'immobilier neuf qui a disparu, quasiment disparu, dont je rappelle que 50% de la production du temps du dispositif Pinel était vouée à être mise sur le marché locatif privé. Et puis, le marché de l'ancien où les gens, quand ils ne peuvent pas acheter, ben, ils restent locataires mécaniquement. Ouais. Hein. Donc là, les 50 ou 100 000 transactions qu'on va perdre cette année, c'est autant de logements qu'on ne retrouvera pas sur le parc locatif. Voilà. Donc ça, c'est sûr que l'hypertension, elle est vraiment sur le parc locatif privé. Et si les mesures gouvernementales, c'est ce qu'il y a aussi dans le plan relance logement, notamment la possibilité de louer des logements F et G typiquement, et d'enlever cette contrainte, mais de la projeter seulement. Espérons que ça remette des logements sur le parc locatif privé, mais c'est un sujet, parce que là, c'est un sujet de société. Il faut faire des choix forts, que les hommes politiques n'ont pas fait. Et à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, on se retrouve dans cette situation-là.
On sort de 10 jours de canicule, on va peut-être en avoir encore dans les mois qui viennent. Les acheteurs, est-ce qu'ils regardent aujourd'hui désormais davantage la qualité du logement que sa seule localisation ? Le DPE, le courriel des consommations, la présence d'une climatisation ou d'espaces extérieurs, sont-ils devenus des critères déterminants dans les négociations aujourd'hui ?
Alors non. Moi, je dis non pour l'aspect déterminant. En revanche, c'est devenu un point d'observation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, à l'époque, ils ne regardaient même pas. Maintenant, on regarde. On regarde le DPE, on regarde la situation énergétique du bien. On peut même faire, ça peut être un levier, parce que les gens ont bien compris que c'était un levier de négociation. Typiquement, on peut faire un audit énergétique et voir, si vous voulez, combien cela coûterait de le remettre en conformité énergétique, etc. Voilà. Est-ce que c'est déterminant ? Je dirais majoritairement non. C'est-à-dire que il y a une dimension affective, si vous voulez, dans l'acquisition de la résidence principale que vous n'enlèverez jamais. Et quand un appartement vous plaît, ou une maison vous plaît, et que c'est là, au bon endroit, c'est là que vous avez envie de vivre et que ça vous plaît, bah, DPE ou pas, bah, vous allez l'acheter. Alors, vous allez négocier les travaux, vous allez faire votre boulot avec la complicité de l'agent immobilier, mais le cœur l'emportera toujours sur la raison. Et c'est mieux comme ça.
Quel fait majeur retient du marché de ce premier semestre 2026, Charles ?
Alors moi, c'est vraiment le basculement primo-accédant, secondo-accédant. C'est vraiment le frais marquant. C'est la première fois depuis des années et des années que les primo-accédants redeviennent les leaders du marché. Cela même que la hausse des prix avait exclu du marché il y a quelques années encore. Et il faut bien reconnaître que, et là, on peut aussi râler quand ça ne fonctionne pas, mais d'avoir rendu le prêt à taux zéro accessible dans l'ancien, vous en mesurez les bénéfices aujourd'hui, parce que ça soulage financièrement les primo-accédants et ça les resolvabilise et du coup, ils redynamisent le marché. Deux leçons par rapport à ça. Un, c'est que l'appétence des Français pour l'immobilier, elle est restée intacte. J'en veux pour preuve, c'est que les primo-accédants, dès qu'ils peuvent, ils achètent. Ça, c'est le premier point. Ouais. Et que donc, dès qu'on leur donne la possibilité, vous voyez bien que le levier est exclusivement financier, dès qu'on leur donne la possibilité financièrement de le faire, ben, ils le font.
Et on voit qu'ils reviennent sur Paris, notamment, qui, paradoxalement...
Moi, je pense qu'ils ne reviennent pas sur Paris. Il y a des primo-accédants parisiens, et une de votre consoeur le rappelait, qui quitteront jamais Paris. Alléluia, il faut bien qu'il y ait des Parisiens à Paris, quand même. Voilà. Mais sinon, non, je crois que c'est un peu partout, très sincèrement. C'est une observation assez générale. Ouais.
Si je demande à l'expert que vous êtes de se projeter un petit peu pas loin, on va dire sur le deuxième semestre 2026, quel est aujourd'hui le principal risque, mais peut-être aussi la principale opportunité pour le marché immobilier ancien ?
Alors le risque, il est connu, hein, c'est l'inflation. Moi, vous savez, je parle beaucoup de ça parce que je suis omnibulé par l'inflation. Parce que je sais, c'est elle qui embarque avec elle les conditions d'accès au crédit. Voilà. Il faut vraiment mesurer, il faut maîtriser l'inflation. Si on maîtrise l'inflation, on maîtrisera les conditions d'accès au crédit. Les banques ont de nouveau exprimé de l'appétence pour financer de l'immobilier, ce qui est quand même une bonne nouvelle. C'est en même temps, c'est logique, parce qu'à 3,5, elles retrouvent du produit net bancaire là où elles l'avaient perdu à 1,2. Donc elles ont aussi un intérêt économique à agir. C'est en cela que 2025 était redevenu équilibré, vous voyez. Voilà. Donc là, pour nous, l'opportunité, c'est de dire maîtrise de l'inflation, voire baisse de l'inflation, baisse des taux, voilà. C'est le régulateur majeur. Le risque à contrario, c'est que patatras, que ça se passe mal au Moyen-Orient, que de nouveau il y a un problème dans le détroit d'Ormuz, que le baril du pétrole repasse les $100 ou les $110 et qu'on se retrouve avec des difficultés d'approvisionnement ou même des tensions politiques en interne qui aient pour conséquence d'affaiblir le pouvoir d'achat général des Français. On oublie souvent, parce que on entend souvent les hommes politiques parler de pouvoir d'achat des Français, ce en quoi ils ont parfaitement raison. Ils oublient juste de dire que le logement, c'est la première dépense des Français. Et donc, je trouve que leur concentration sur ce sujet n'est pas proportionnelle à l'enjeu économique que ça représente dans les foyers au quotidien. D'ailleurs, que ce soit à la location ou à l'achat, parce qu'à l'achat, on a HCSF qui nous contraint, mais à la location, il ne vous a pas échappé qu'on demande 3 fois le revenu. Ça veut dire qu'on vous demande 30% de votre taux d'effort. Donc, dans tous les cas, vous consacrez entre 30 et 35% de vos revenus au logement. Et ça mériterait un effort de concentration et en tout cas une attention que je considère, même si je trouve que l'actuel ministre fait des choses déjà, et fait dans l'ensemble des bonnes choses. Mmh. On n'en mesure pas encore les effets bénéfiques aujourd'hui, mais il faut laisser le temps au temps.
Alors justement, vous évoquez le ministre du Logement actuel, le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun. Le plan de relance qu'il a lancé va être présenté le 7 juillet prochain au Sénat. A été ajouté un aspect décentralisation aussi. Alors j'imagine que pour vous, c'est plutôt une bonne chose, la décentralisation.
Oui, puis c'est la décentralisation sur ce sujet-là, c'est une bonne connaissance du territoire local. Voilà. Et je le dis, c'est ce qui nous a manqué ces dernières années, parce qu'il y a une analyse typiquement locale à faire. Il y a des zones en France où il n'y a pas de tension immobilière. Donc s'il n'y a pas de tension immobilière, il n'y a pas de raison ni de construire des logements, ni dans, non, ou en réhabilité. Il faut s'adapter à ce qui est 3 choses qui sont fondamentales. D'abord, 1, la démographie et l'évolution de la démographie qui vient d'être bouleversée avec de la dénatalité, mais globalement, on sera quand même 69,7 millions en 2037, donc il va bien falloir loger ces gens-là quelque part. Ensuite, on va arriver dans une période où, pour le coup, au fait de la dénatalité, ben finalement, la démographie va être en baisse et on va commencer à perdre des habitants en France, donc il va falloir aussi intégrer ça. Ensuite, il y a un deuxième pan qui est purement macroéconomique, c'est l'évolution sociétale du foyer français, la décohabitation, les familles monoparentales, la durée de vie, l'allongement de la durée de vie, etc., qui influe directement sur l'immobilier, d'accord ? Et puis, troisièmement, les mutations géographiques, voilà, les migrations et mutations géographiques qu'on doit intégrer parce que la tension immobilière à Paris n'est pas la même qu'à Montauban, à Limoges ou à Brive, voilà. Et je ne suis pas certain qu'il faille construire des immeubles neufs à Montauban.
Pour terminer rapidement, un mot sur les actions de Century 21 à côté des actions immobilières. Ouais. Vous êtes partenaire du Tour de France encore cette année, en 2026. Vous allez chez Century 21.
Oui. Non, mais nous, c'est sincère parce qu'on est dans l'ancrage local. On n'est pas que de passage. Hein. On a nos agences, on fait les marchés, on anime les marchés parce que c'est le lieu de vie de la cité par excellence. L'agora de l'époque, si vous voulez, c'est là où les gens se rencontrent, on discute, on refait le monde et c'est là où nos clients, on les retrouve souvent le mercredi et le samedi, voire le dimanche matin dans les marchés locaux. Et c'est vrai qu'on a accompagné l'action de TF1 autour de l'élection du plus beau marché de France, parce que ça nous a paru être assez logique d'être associé à des démarches.
Les estimations confiance, c'est quelque chose que vous avez lancé cette année. Au mois d'avril, il y aura une autre peut-être...
Oui, alors au mois d'avril, on a lancé quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, qui est l'estimation confiance. On a déjà, depuis la nuit des temps, un mandat qui s'appelle le mandat confiance, que notre conviction, c'est que ce qui prévaut à une relation intelligente entre un agent immobilier et son client, c'est la relation de confiance. Et donc on a lancé l'opération des estimations confiance pour pour que cette, notre relation, elle prenne sa genèse dans l'estimation, avec cette notion de confiance, et qu'on puisse proposer à nos clients trois types d'estimation. Bah, si l'estimation vente, bien sûr, c'est dans l'hypothèse où ils ont décidé de mettre leur bien à la vente, mais pas seulement. Les estimations aussi découvertes, c'est-à-dire simplement, si vous, Eric, vous voulez savoir quel est le prix de votre maison, de votre appartement, uniquement pour avoir une information, ben, on est capable aussi de vous le faire. Et puis les estimations patrimoniales, parce que certains gens peuvent en avoir besoin, division, succession, ICI, etc., 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 par du fruit ou je ne sais trop quel besoin. Et donc, on fournit des attestations patrimoniales, le tout gratuitement avec nos clients, parce que notre objectif, c'est de les accompagner, quels que soient leurs besoins. Voilà. Et c'est vrai qu'on va faire la même chose au mois d'octobre, versus administration de biens, locataires, propriétaires, investisseurs, bailleurs, etc., pour leur ramener aussi le même niveau de confiance que ceux qu'on amène dans le cadre de la transaction.
Et c'est passionnant. Merci,
Eric. Merci
beaucoup, Charles.
Excellente journée.
Merci, c'est toujours un plaisir de vous avoir, à vous également. Et rendez-vous
plus tard,
au mois de janvier.
Radio Immo, le Zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.